Bon,
comme tu veux.
donc, en effet, alors, tu me disais de commencer par présenter un peu de parcours. Alors, c'est à la fois positif et négatif, parce qu'effectivement, on pourrait dire que ça fait beaucoup, beaucoup d'années que j'essaie de travailler sur le rôle du langage. À l'époque, c'était de la langue, au début. À une époque aussi où l'école, peut-être même l'institution scolaire, s'intéressait de près aux effets de la démocratisation. Je parle des années 60, où la démocratisation commençait, c'est-à-dire qu'on commençait à voir apparaître, arriver, des élèves de milieu populaire quand même dans les collèges, même s'ils étaient plus CEG que CES à un certain moment, collège d'enseignement général, je veux dire. Et puis à partir de 74, évidemment, dans les collèges d'enseignement secondaire. Et très tôt, donc relativement très tôt, on s'est posé la question, le « on » étant donc simultanément la recherche, à l'époque, à l'INRP ou à l'IPR, l'IPN, je ne m'en souviens plus maintenant de la création, des dates de création, ce n'est pas bien, où on essayait de se poser la question des modalités d'aide des enfants de milieu populaire, déjà, donc, dans le collège, parce que il y a toujours eu ce décalage relativement important, quand même, entre la langue de l'école et la langue de la maison pour une partie de la population scolaire. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est appelé le plan Rouchette. Il y a eu même des débats à l'Assemblée nationale sur cette question de la langue, de l'oral et de l'écrit à l'école. Je pense qu'on en est assez loin aujourd'hui de ces débats. Alors, pourquoi je disais que c'était positif ou négatif? Parce que c'est toujours un problème quand les chercheurs disent que ça fait quand même pas mal d'années que les questions sont posées et qu'elles se posent encore et toujours. Alors, on va dire que ça signifie peut-être que aussi l'institution ne se saisit pas complètement des conclusions ou que le contexte, j'allais dire à la fois politique et scolaire, change, bon, peu importe. Et donc, j'essaie de, non pas d'accompagner, mais de comprendre pourquoi, selon l'expression que j'utilise assez fréquemment, alors que tout le monde, je pense, fait des efforts pour préparer les cours, pour essayer de prendre en considération un certain nombre de choses concernant la langue, concernant le langage, j'y reviens tout de suite, que les élèves, globalement, bien sûr, travaillent aussi. Ça ne se passe pas bien. Les inégalités perdurent et perdurent, s'aggravent, me semble. Et donc, il faut bien essayer de comprendre pourquoi. Il y a eu un moment où peut-être c'était moins grave qu'aujourd'hui, ou moins aggravé. Mais peut-être y avait-il moins d'évaluations qui mettaient en évidence l'aggravation. C'est possible aussi. Et donc, si l'on travaille sur la question des inégalités, hein, c'est bien sûr dans cette perspective, sinon je crois ni vous ni moi ne seriez là aujourd'hui, on se pose obligatoirement la question de pourquoi, de deux choses. Pourquoi à la fois, donc, il est connu que le langage et la langue, je reviens sur les définitions très, très vite, sont au cœur de la difficulté scolaire et la difficulté des apprentissages. Pourquoi on le sait? Et pourquoi, au demeurant, les inégalités continuent de se creuser? Alors, je dirais aussi qu'il me semble qu'une des raisons, je dis une des raisons, hein, non pas par une modestie outrancière, mais parce que c'est de fait une des raisons. Le contexte effectivement scolaire a changé, et une des questions que l'on va se poser ce matin, c'est en quoi un certain nombre de préconisations, un certain nombre d'évolutions que j'ai l'habitude d'appeler curriculaires, en donnant à curriculum le double sens de contenu, d'objectif d'enseignement et de manière de les mettre en œuvre ou en scène, sont venus brouiller un certain nombre d'objectifs. Hein, ce que on va essayer de voir, c'est en quoi, finalement, sur cette question du langage, des inégalités sociales de langage, des inégalités sociales à l'école, peut-être que aujourd'hui, pour les enseignants, Alors, pour les enseignants de l'école maternelle, c'est une évidence, en tout cas pour moi. Pour les enseignants de l'école primaire, ça en est encore. Mais je crains que ça ne continue et que ça continue longtemps. Et que l'école, même, on pourrait dire, n'ait pas de prise réellement sur ces difficultés. Et que donc, il faut se demander pourquoi. C'est-à-dire que l'ambiguïté, la place du langage dans l'école est de plus en plus grande. Il y a une sorte de paradoxe, si vous voulez, on pourrait dire, c'est que, je le dis encore en introduction, les élèves ont de plus en la parole des élèves a de plus en plus de place dans l'école, enfin dans la classe, on va dire. Je ne sais si c'est bien, on n'est pas là pour ça, c'est un fait. Je dirai pourquoi tout à l'heure, elle a de plus en plus de place. Et au demeurant, cette place de plus en plus grande, peut-être, brouille de plus en plus, pour eux comme pour les enseignants, les difficultés d'apprentissage que cela entraîne. Alors, deuxièmement, la nature même des savoirs scolaires a évolué ces dernières années, dans le sens d'une plus grande exigence et de plus de difficultés. Ce faisant pour une partie des élèves. Pourquoi je dis plus grande exigence? C'est que d'une part, ce que je dis, je crois, n'est pas annoncé d'une manière très claire. Et une évolution relativement invisible, mais sensible au demeurant, à savoir que l'objet de nombre d'activités scolaires n'est pas l'acquisition de savoirs disciplinaires, mais l'acquisition de raisonnement, de mode de pensée, de mode de faire avec les savoirs scolaires, comme le montrent, je crois, les évaluations actuelles, comme PISA, ou des évaluations qui peuvent être nationales ou locales, on est davantage, ou je vais dire dans l'autre sens, c'est plus facile, moins sur la restitution de savoirs disciplinaires que sur, on pourrait dire, la manière de faire avec ces savoirs. Je suis claire ? Si vous voulez, oui, tout à fait, de Stéphane, oui, Bonnery. Et enfin, je suppose.
Non, c'est une autre, mais
c'est une autre carte. Ou un autre auteur. Voilà, cette carte de géographie a du succès. Moi, je vais parler de Napoléon, ça va nous changer. Et donc, ça, si vous voulez, c'est ce que montre par exemple PISA, c'est bien cela. C'est-à-dire que si tout le monde a en tête les items de PISA. Enfin, vous avez absolument l'autorisation de dire non. Hein. Ça va, ce n'est pas la peine que je montre. Non, vous ne voyez pas. Dans PISA littératie, hein, PISA. Ça, je suppose que vous le savez, évalue à 15 ans la manière dont les élèves font avec des savoirs scientifiques ou des savoirs littéraciers. Oui, ça va. Et si on prend les savoirs littéraciers, ceux-ci sont évalués faiblement à partir de tâches scolaires ou de documents scolaires, mais massivement à partir de documents de la vie ordinaire. D'accord, des articles de journaux, des lettres, toutes sortes de choses, des plans, des notices d'emploi, de toutes sortes de choses. Oui, ça va. Et donc, ce qu'on appelle littératie aujourd'hui, j'y reviendrai, j'espère, tout à l'heure un peu plus en détail, sur la littératie scolaire, c'est donc davantage quelque chose dont, en effet, nous avons tous besoin dans la société contemporaine, c'est savoir traiter des documents. En sous-traité, vous mettez une quantité de choses, savoir construire des savoirs à partir des documents. Et voyez ce que j'essaie de dire là, c'est que ces choses sont relativement peu explicitées, peu visibles. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, sans doute, du côté des enseignants, d'être sur des savoirs disciplinaires. Mais en fait, en dehors du fait de faire de l'interdisciplinarité ou des choses comme ça, on commence à être sur des choses assez différentes. Alors c'est pour ça que, oui, j'ai besoin, s'il vous plaît, excusez-moi, je voulais que vous regardiez ceci. Il en manque un petit bout, j'ai l'impression, oui. Bon, ce n'est pas très grave. Qui montre l'ambiguïté, alors, d'un document que vous reconnaîtrez sans doute si vous vous intéressez aux documents sur lesquels les élèves ont à travailler, comme une page de manuel, telle qu'aujourd'hui, ils sont présents, on pourrait dire, de l'école primaire, sans doute au lycée. Oui, vous voyez ce que j'essaie de dire, c'est-à-dire qu'ils se présentent sous forme d'une double page, avec une hétérogénéité des textes et des traces graphiques, quelles qu'elles soient. Là, on a deux photos, un petit personnage de bande dessinée qui ici se trouve être une vache, un schéma, puis toutes sortes de petits textes. Vous voyez ? Et si on se pose la question des savoirs scolaires, là, on voit, si vous voulez, que c'est relatif. J'utilise ce terme, nous utilisons ce terme de brouiller. C'est qu'est-ce qui est important dans cette double page ? Et on s'aperçoit, bon, pour un petit peu caricaturer tout ce que je vais dire dans le temps qui est imparti, est forcément relativement caricatural, et donc pas tout à fait exact, évidemment, mais si on regarde cela, je trouve que cette double page illustre un petit peu ce que je disais, enfin illustre pas trop mal, ce que j'essayais de dire, c'est cette ambiguïté. Et là, on serait en découverte du monde ou en SVT, peu importe, là, quelque chose de ce genre, en découverte du monde compte tenu du niveau. C'est quand même du niveau CPCE1, cela. C'est ça que j'appelais aussi élévation du niveau des exigences extrêmement grande. Enfin, je sais si je suis obligée de détailler pourquoi c'est une élévation du niveau des exigences, mais il faut faire avec quelque chose qui est totalement hétérogène, discontinu, et qui est contradictoire, ou du moins ambivalent, on va dire, sur qu'est-ce qui est important dans tout ça. Et ce que j'avais envie de dire, là, d'entrée de jeu, on est toujours un peu dans la première partie de l'exposé, c'est que finalement, on peut choisir, selon le contexte d'enseignement, plutôt, donc, fréquenté par des enfants de milieu populaire ou des élèves de milieu populaire ou par d'autres élèves, on peut choisir de mettre l'accent sur un domaine ou un autre. Et je dirais même plus, aller dans le sens des élèves ou essayer de mettre les élèves dans le sens de l'école. Et les enseignants ne sont pas aidés, c'est ça que je voulais dire aussi en début, parce que souvent des préconisations institutionnelles mais également des documents, comme celui que je vous présente là, crée ce brouillage. Parce que, regardez même le titre, je dirais heureusement, les élèves ne lisent pas les hauts des pages. J'exagère un peu en disant cela, mais enfin quand même, dans la recherche que j'ai utilisée, enfin, je pourrais vous passer, si cela vous intéresse, l'ensemble du PowerPoint, si vous le voulez, suite à mon propos d'aujourd'hui, bien sûr. Mais on peut se dire que les élèves ont le choix et que s'ils lisaient, et pour les enseignants aussi, est-ce que justement l'objet de savoir, est-ce que c'est un savoir ? Est-ce que c'est que faut-il manger ? Ou est-ce que c'est ce que vous avez dans la partie gauche ? Enfin, droite pour vous, je suppose, des savoirs disciplinaires autour des questions des aliments et de l'apport des aliments en termes de composition des aliments sur le fonctionnement du corps. Oui, ça va, c'est à peu près clair. Et vous voyez qu'il est possible. Alors, on interpelle même les élèves en les tutoyant. C'est très important pour la suite. Le titre, donc, est carrément du côté de l'éducation à, qui n'est pas du tout la même chose que ce qu'il y a dans le fameux schéma avec les micro-textes de savoir écrits particulièrement petits. Et donc, avec des choses très étranges. Alors, si on avait du temps, je vous aurais demandé d'étudier cela, je le fais à votre place. Mais on peut l'étudier avec des enseignants, par exemple, cela, et s'apercevoir que, si vous regardez ce qu'il y a là en haut, il y a des choses très étranges. Il y a écrit « Cherchons ensemble ». Oui, tout le monde voit à peu près cela. « Cherchons ensemble » en haut. Et si vous regardez ce qu'il y a à chercher, vous vous rendrez compte qu'il n'y a aucune recherche. Parce que, enfin, à mon avis, « Quels aliments préfères-tu ?» ne relève pas exactement de la recherche. Alors, c'est pour ça que j'appelle ça du brouillage. Parce que quand après, y compris dans la même séance ou dans une séance suivante, on cherchera réellement en sciences, ou qu'on cherche dans d'autres disciplines. Vous voyez, on pourrait dire qu'un document comme celui-ci, qui est utilisé extrêmement fréquemment, non pas celui-ci forcément tout le temps, mais l'équivalent de celui-ci, il y a bien ce brouillage, y compris terminologique, sur lequel je vais revenir, où on ne sait plus, quand on est élève, ce que signifie chercher. On ne sait plus, quand on est élève, quel est le « tu », hein, que préfères-tu ? Est-ce que c'est le « tu » de la maison, pour reprendre les propos de Patrick tout à l'heure, ou est-ce que c'est un élève que l'on tutoie ? Ce n'est pas la même chose du tout. Et est-ce que préférer des aliments relève de savoir ? Ou relève de je ne sais quoi, d'habitudes alimentaires quotidiennes, familiales. Hein, donc, je voulais juste présenter en début cela, on pourra, si on a le temps, voir le reste du PowerPoint auquel je fais allusion aussi. Mais vous voyez, il me semble qu'on a donc d'un côté élévation des exigences. Si on prend le schéma triangulaire, il est extrêmement difficile. Hein, si je peux vous lire ce qu'il y a, évidemment, sous le triangle, qui, pour DCP CE1, est quand même relativement complexe, comme phrase, il y a écrit « Les groupes d'aliments dont le corps a besoin », ça c'est la légende, point. Alors, est-ce que c'est un titre ? C'est une drôle de phrase, enfin c'est pas une phrase, il manque un verbe. Enfin, il manque un verbe, il manque ce que ça présente. Et il y a écrit « Plus l'espace occupé par un groupe est grand, en bas du dessin, plus le corps en a besoin ». Je peux vous dire que c'est pas... une légende qui est très aisée à comprendre. En plus, il y a même là, vous ne pouvez peut-être... Si vous lisez ce qu'il y a au tableau ? Non, hein, c'est pas très lisible, je pense, pour au moins le fond, mais même peut-être le premier rang. Mais en plus, il y a des choses qui sont très ambiguës. Hein, c'est-à-dire que tout à fait en haut, vous avez évidemment le sucre et l'huile, enfin les graisses, on en a moins besoin. Et il y a même écrit, le sucre donne de l'énergie. Donc ça fait partie, on pourrait dire, des savoirs, et pas des savoirs quotidiens. Mais la phrase en dessous, enfin la suite de la phrase plutôt, sans virgule, sans rien, c'est « mais les bonbons n'ont pas d'utilité ». Et donc, voilà. Alors, est-ce qu'on est à peu près d'accord sur le fait que ce type de document est emblématique de ce qui se passe ? Et on pourrait voir, je vais dire, que les élèves qui nous occupent sont plutôt tentés par considérer que ce qui est important à retenir, c'est plutôt là où il est tutoyé, c'est-à-dire ton corps, etc. Tu dois manger plusieurs fois par jour, ton alimentation doit être variée et équilibrée, c'est-à-dire ce que j'ai appelé des éducations A, il me semble que ça s'appelle comme ça, la santé. Alors l'école a toujours... je ne devrais pas dire l'école a toujours... Une certaine école s'occupait d'hygiène. C'est celle qui était, si on prend l'école de Jules Ferry, sans nostalgie aucune, mais justement celle qui était faite pour les enfants de milieu populaire, s'occuper d'hygiène et de socialisation familiale, d'apprendre aux jeunes filles à bien tenir leur ménage, à justement, j'ai une magnifique rédaction de ma grand-mère qui était née au 19e siècle, bien évidemment, et où elle loue les bénéfices que l'école lui a apportés en lui apprenant à faire un pot-au-feu pour quand son mari rentrera du travail et où elle le nourrira bien et sans alcool, évidemment. Donc, cette ambiguïté... Donc, cette ambiguïté, on pourrait dire, a existé, mais n'a pas toujours existé quand, justement, il y a eu démocratisation de l'enseignement et collège unique, où, en effet, les logiques d'apprentissage et les logiques de savoir relevaient davantage de la démocratisation des savoirs savants, scolarisés certes, pour tous. Ça va à peu près. On continue. Donc ça va sur augmentation des exigences, mais possibilité de ne pas introduire les savoirs pour tous, des savoirs scolaires, on va dire, les savoirs académiques, les savoirs qui permettent effectivement de comprendre la complexité du monde aujourd'hui. Et donc, c'est d'autant plus brouillé en éducation prioritaire. Qu'est-ce que l'on sait sur les élèves de milieu populaire, sur ces questions qui nous occupent du langage ? Et pourquoi je me suis autorisée à dire tout à l'heure que ce genre de document, bon, et qui est donc lu d'une certaine manière par les élèves, enfin d'une manière particulière par les élèves de milieux populaires, et que donc peut-être va à l'encontre de ce qui leur permettrait de bénéficier de l'école et de ses savoirs, c'est la chose suivante. C'est qu'effectivement, donc, sans doute que je ne vais pas revenir sur langage au cœur des inégalités. Je vais plutôt le détailler. Je vais revenir sur langage au cœur des apprentissages et surtout sur le fait que c'est par le langage que l'on peut transformer l'enfant en élève. C'est-à-dire que l'on peut passer, comme vous le voyez, il n'y a pas de tutoiement dès qu'il est question de savoir. Alors il y a cette irruption étrange des bonbons, qui est étrange, tout à fait. Mais même dans l'atelier dont vous voyez un petit morceau, il y a écrit « Procure-toi », là il y en a, évidemment, mais il n'est peut-être pas question de savoir. Hein, « Procure-toi les menus des repas de la cantine pendant la semaine ». Hein, donc cette question de la transformation de l'enfant en élève, je crois, est au cœur de notre préoccupation, quand je dis notre collectivement ce matin. Et donc c'est à quelles conditions on transforme l'enfant en élève et pourquoi ? Et quelle est la place là ? Donc, si vous voulez, c'est une réelle transformation, c'est-à-dire que ce n'est pas l'acquisition. Sinon, justement, ça se saurait, et j'espère que l'école aurait été plus efficace qu'elle ne l'a été jusqu'à présent dans ce domaine-là, c'est parce que ce qui fait différence entre les enfants ou entre les élèves, selon les milieux sociaux, pour aller rapidement, ce n'est pas exactement les questions de la maîtrise de la langue. J'ai le regret de dire cela, bien que l'institution ait mis en place largement, et puis fort longtemps, des missions maîtrise de la langue dans les académies, mais ça dépend de ce qu'on fait de cette maîtrise de la langue. Ce qui est important, c'est sans doute davantage les usages de la langue, que je vais appeler langage, ici même, qui s'appelle langage. Ce qui différencie, c'est donc à quoi les gens, donc les familles, donc les enfants, qui sont socialisés par ces familles, utilisent le langage. Et que ces utilisations construisent des rapports qualitativement différents au monde, aux objets de savoir, au savoir eux-mêmes, à l'apprentissage. Et donc, peut-être que, certes, les enseignants disent toujours, à juste titre, et on le dit depuis des 1934, on a commencé à le dire aux États-Unis. Ça fait longtemps qu'on a commencé à avoir les premières grandes enquêtes sur la langue des enfants de milieux populaires et des enfants de milieux non populaires, où on a commencé à s'apercevoir qu'effectivement il y avait des différences et que si on regardait de près le lexique, oui, il y avait des différences, que ce faisant, quand les enseignants d'aujourd'hui disent encore et toujours, comme hier et avant-hier, que le lexique des enfants de milieu populaire est pauvre, que leurs phrases, leur syntaxe soit fautive, etc., vous voyez, dans cet aspect déficitaire qui est constamment évoqué, c'est à la fois vrai, sauf que le diagnostic, enfin, qu'est-ce qu'on appelle langue pauvre, vocabulaire pauvre, ou éventuellement déficitaire, fautif, etc. Ce n'est peut-être pas là où, du coup, on essaie de mettre l'accent de remédiation, dans les remédiations, qu'il faut que cela importe, pour que le langage soit bien celui des apprentissages et celui d'une certaine réduction des inégalités. Hein, donc, c'est là-dessus, je crois, qu'il faut travailler, c'est de se dire que, dans le milieu populaire, avec toujours la prudence qu'il faut avoir quand je vais caricaturer et polariser, vous comprenez, je vais dire, d'un côté, il y a que c'est ça, et de l'autre, c'est ça, et évidemment, les gens se situent toujours quelque part dans ce continuum, qui, heureusement, va d'un pôle à l'autre, même s'il y a des élèves et leurs parents aux deux pôles, vraisemblablement. Forcément, et en plus on travaille dans des établissements, des classes, des lieux, des quartiers très défavorisés, plus ce que je dis pour un des pôles semble quand même relativement décrire des populations et pour lesquelles ce déplacement du point de vue des élèves est fondamental. Donc, on pourrait dire que, d'un côté, on a des élèves pour lesquels le langage, donc la langue. Alors, vous manifestez si ce que je dis est confus, incompréhensible, ou utilise des notions, des mots, des concepts qui ne vous sont pas très familiers, c'est tout à fait normal. Je fais comme si, pour l'instant, ça allait, que tout était compréhensible, voilà, mais vous vous manifestez sur ces usages différenciateurs. Ce que j'appelle l'usage différenciateur est à peu près clair, c'est-à-dire, je veux dire par exemple quand on sort du cinéma, vous mettez dans la situation de sortir du cinéma avec des amis. Il y a plusieurs manières de sortir du cinéma avec des amis, où on peut se dire on va manger, ou on, tout de suite, voilà, on est allé au cinéma et on mange. Ou on peut se dire ça m'a plu, ça m'a pas plu, ça va, et puis on va manger. Ou on peut se dire oh qu'est-ce que c'était bien, oh l'histoire m'a passionné, vraiment, oh j'étais ému aux larmes, oui. Ou non, oh non j'ai détesté, voilà. Ou on peut se dire ah oui mais je n'ai pas trouvé la réalisation aussi bonne qu'à l'accoutumée chez ce metteur en scène. Oui, ça va. J'ai trouvé que les plans n'étaient pas assez longs. Il y a tout cet éventail, c'est la même chose pour toutes les situations scolaires, et qui, plus elles sont ambiguës, avec quels aliments préfères-tu, on va solliciter les élèves, comme ils peuvent le dire à la sortie du cinéma, j'ai pas aimé, j'aime pas la petite fille, elle mange des cornflakes, j'aime pas les cornflakes, je préfère je sais pas quoi, tremper ma tartine de Nutella dans le café crème. Voilà, vous voyez ce que j'essayais de dire sur usage, et où à l'opposé on est sur des usages réflexifs de commentaires, comme le demande l'utilisation des documents. Si ça c'est pas clair, c'est ennuyeux. Donc, si on polarise, certains élèves, certaines familles, certains groupes sociaux sont plutôt sur des usages communicatifs et expressifs du langage, c'est-à-dire faire partager, on pourrait dire, des expériences et des opinions, ça nous ira ça, avec une idée que le langage peut dire le vrai des choses. Enfin, c'est pas deux, peu, mais c'est à l'habitude d'eux. C'est-à-dire une conception du langage qui est à l'opposé de son utilisation dans l'école. Je dis un peu volontairement opposé, c'est un peu de la provocation, mais c'est important de distinguer très fortement. C'est-à-dire un langage qui va être centré sur les faits, les plus loin faits, faites. Et puis un langage qui renvoie à des contextes précis, c'est pour ça que j'ai parlé d'expérience, qui peut se construire même dans un ici-maintenant des situations produites, dans la classe par exemple. Un langage encore qui est centré sur les objets pris en eux-mêmes. Isolés de leur contexte, pour le coup, éventuellement, on s'intéresse à eux pour eux-mêmes. Vous allez comprendre pourquoi, dans un cas, je dis dans le contexte, et juste après, je dis les langages, un objet isolé. Vous allez comprendre, ou je peux le dire tout de suite. Hein, oui, c'est complexe, je ne sais, j'en ai besoin tout à l'heure, mais vous savez, il y a dans les classes, par exemple, des poissons rouges. On va garder le poisson rouge, mais ça peut être des escargots dans le primaire, hein, il y a des choses comme ça. Alors vous prenez n'importe quel animal comme ça, alors une souris. D'habitude, je prends hamster, mais je prends trop souvent hamster, alors on va changer. Si on prend souris, je ne sais plus comment elle s'appelle, la souris, Ernestine, c'est ça ? Célestine. Célestine, de la bande dessinée. Mais le poisson rouge m'intéressait là, parce que j'ai eu ça l'autre jour, hein, un poisson rouge. Alors, quand les enseignants, vous savez, veulent faire cours sur... Alors, il y a le poisson rouge dans la classe. oui. Et puis un jour, les enseignants voudraient faire classe sur les savoirs liés aux poissons rouges. Donc pas, je ne sais pas comment on appelle les poissons rouges, mais on peut l'appeler comme vous voulez. C'est-à-dire celui qu'on nourrit habituellement, tout d'un coup, il va falloir transformer le regard de l'élève pour faire que le poisson rouge que l'on nourrit, auquel on s'intéresse, que l'on transporte pour le week-end, s'il est un peu long, a fortiori pour les vacances, à la maison, forcément chez un élève, on ne va pas le laisser mourir. Voilà. Donc ce poisson rouge, il a une vie dans la classe. Ça va, c'est clair ça. C'est un poisson rouge spécifique, j'en ai besoin tout à l'heure. Il est en contexte dans la classe, donc c'est ça que je voulais dire. Et puis tout d'un coup, le poisson rouge perd son identité spécifique, parce que l'enseignant en a besoin pour travailler une espèce particulière animale, qui est le poisson. Ça va, c'est clair la description de la situation. Et donc il va falloir que les élèves changent de regard sur cette espèce d'animal, ou cette espèce animale, comme vous voulez. Et qu'est-ce qui change le regard? C'est le langage. Mais c'est parfois l'enseignant qui est censé dire « Attention, aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à ce à notre poisson rouge, mais au poisson rouge, à UX. » Oui. On passe d'un objet de fréquentation ordinaire à un objet de savoir. C'est clair, ça? C'est le langage qui le permet, j'y reviens. Mais manque de chance. On est un petit peu toujours sur ce type de situation très ambiguë. Et vous voyez que là, on change sans arrêt dans la classe. Parce qu'il y a bien un élève à qui, c'est ça qui m'est arrivé l'autre jour évidemment, qui dans la classe, son poisson rouge à lui était mort quelques jours avant. Et donc, alors plus on est chez les petits, plus il y a ce problème, vous le savez bien, où l'élève prend la parole pour dire tout son drame personnel d'avoir vu son poisson rouge le ventre en l'air. Et si l'enseignant n'y prend garde, on va rester un peu longtemps quand même sur le poisson rouge et le désespoir de l'enfant. Alors, il y a un enseignant l'autre jour qui est venu me voir en me disant « Mais je ne comprends pas où est le problème, il suffit de faire donc des faire-part de décès. » Et peut-être que non, justement. Peut-être qu'il ne faut pas faire de faire-part de décès. Peut-être que c'est continuer à entretenir le trouble. Alors, vous voyez, ce qui est difficile dans l'école, c'est cette question, qu'est-ce qu'on va appeler contextualisation, décontextualisation? C'est pour ça que j'étais ennuyée, parce que l'élève, avec le poisson rouge, si mon exemple est à peu près compréhensible, hyper-contextualise pour lui son poisson rouge mort. Si on prend le poisson rouge de la classe, il est ambigu, il est à la fois l'espèce des poissons rouges, mais aussi celui auquel on s'est un petit peu dont on s'est un peu occupé et auquel on s'est un peu attaché. Donc il y a plusieurs poissons rouges dans la classe, si vous comprenez. Seul le langage va permettre de désambiguiser la situation et de construire le poisson rouge dont on a besoin. Autrement dit, la situation dont on a besoin. Mais pour les élèves de milieu populaire, s'ils n'y prennent garde, on aura soit le poisson rouge mort quelques jours précédents, soit le poisson rouge dont on s'est occupé. Et il sera beaucoup plus difficile pour les élèves de convoquer l'espèce poisson rouge, ou poisson, a fortiori, dont l'enseignant a justement besoin à ce moment-là. Parce que, donc vous voyez pourquoi je disais à la fois, il y a soit une hyper-contextualisation, effectivement, soit la construction d'un poisson rouge particulier, c'est-à-dire d'isoler son problème de poisson rouge, si je puis dire ça comme ça, de l'ensemble de la situation. Alors on pourrait avoir la même chose, les élèves, vous le savez aussi bien que moi je suppose, là, lisent ces élèves plutôt donc de milieu populaire, lisent en isolant parfois certains mots qui fonctionnent selon ma terminologie comme mot signal, très faiblement remis même dans la phrase, et pas du tout remis dans le contexte du texte. Peut-être que les élèves ne lisent pas le texte. et que je glisse cela, peut-être que les modalités d'évaluation depuis un certain nombre d'années ont construit chez les élèves, et en particulier le milieu populaire, une compétence très particulière qui est d'être capable d'isoler un mot dans un texte pour répondre à une question, sans jamais avoir besoin de lire les textes. Et il faudrait se poser là la question, et j'ai commencé à poser des petits cailloux tout à l'heure, en ce sens, c'est-à-dire que là, l'institution, depuis des années, a fait, peut-être qu'avec les élèves qui nous préoccupent, était plutôt malencontreux, c'est-à-dire d'habituer les élèves et les enseignants à isoler des mots, à, j'irai jusqu'à dire d'une manière un peu provocatrice, empêcher les élèves de lire pour construire du sens, pour retourner aux mots pour construire du sens, et non pas pour isoler des mots pour répondre à une question. Et on le voit bien dans PISA, ce que les élèves français réussissent bien, en général, c'est justement la première catégorie de compétences, où il s'agit en effet d'être capable de répondre à des questions de complément de texte, de réponse à des questions de base. Et ça, ils savent le faire depuis les premières évaluations nationales, 89, 90, quelque chose de ce genre. Et donc là, c'est construit une compétence scolaire qui éloigne, en revanche, des savoirs. Donc si on continue, on peut dire que les objets, pour une partie de la population, ont du sens en eux-mêmes, que ce soit des objets linguistiques ou des objets non linguistiques. Si on oppose ces élèves à des élèves plus favorisés, on va avoir un petit peu le décalque positif pour les savoirs scolaires, c'est-à-dire que les élèves sont habitués à s'interroger sur le monde, à construire avec le langage des savoirs, à décontextualiser, à être, autrement dit, dans ce que l'école suppose aujourd'hui, une littératie, c'est-à-dire étendue même, c'est-à-dire la capacité d'utiliser une hétérogénéité de documents et d'être à l'oral dans des modalités, effectivement, de langage qui est proche des questions soulevées par le traitement de l'écrit, ce qui est une opposition majeure. Alors si on regarde comment les élèves lisent, je ne m'occupe pas pour l'instant de ce que les enseignants font. On regarde d'abord comment, sans les enseignants, ce que les élèves ont fait du texte. Vous vous en souvenez un peu de ce qu'il y avait avant ? Les élèves. Tout le monde peut lire ou non ? C'est illisible au fond aussi ? C'est illisible ? Ça va ? Alors vous voyez qu'on est là dans des questions qui ne relèvent pas du tout de la question de la langue, de la question de l'incapacité de lire. Il y a toujours des enseignants qui me disent « Oh mais ils ne savent pas lire !» Alors c'est vrai aussi parce que par exemple, pour faire ce petit travail-là, enfin, ce gros travail en termes de recueil de données, si vous voulez, c'est vrai qu'il a fallu comparer des élèves de CM1 en milieu favorisé, en ZEP, entre guillemets, avec des élèves de CE1, c'est-à-dire qu'on a commencé en milieu favorisé, pour voir comment ils faisaient, c'était un hasard de calendrier cela, et puis on a en CE1, et puis on est allé après en CE1, en ZEP, et les élèves ne savaient pas lire. Enfin, n'arrivait pas, il pouvait un peu déchiffrer, mais à peine. Alors on est allé en CE2. C'était la même chose, il a fallu attendre la fin de l'année, en juin, de CM1, pour pouvoir avoir des élèves qui n'étaient pas freinés dans leur approche du texte, du manuel, par des questions de, pour appeler, déchiffrage, lecture, etc. Ça en dit long quand même un peu sur de réelles difficultés. Mais c'est pas celle-là qui m'intéresse. Donc, vous voyez ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure sur le langage, on le retrouve là. C'est pas une question réellement de vocabulaire. C'est le fait que, en effet, les élèves, ceux-là, de CEP, ne lisent pas, et on va le voir, la même chose que les autres, et se sont effectivement intéressés à ce qui s'adressait à eux, on pourrait dire au titre du tutoiement. Et effectivement, ce qu'ils me disaient, par exemple, en entretien, c'est ce qui m'intéresse, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est plusieurs choses. C'est le troisième point. Ils lisent des injonctions plus que les savoirs. Ils sont dans un rapport, on pourrait dire, d'obéissance. Tout de même, alors évidemment, c'est toujours par contraste. On va dire, par exemple, que les élèves, les autres, vous avez vu à peu près cela, j'y reviens en tout cas tout de suite. Oui, ça n'y est pas, donc c'est parfait. Les autres élèves des quartiers très favorisés n'ont pas du tout lu l'éducation à, hein, il faut manger, etc., comme des injonctions, mais plutôt comme on nous dit ce que le corps doit ingérer, hein, comment il faut se nourrir pour que le corps fonctionne bien. Ce qui n'est pas la même chose que des injonctions sur ce que tu dois manger, boire, etc. Ça n'a rien à voir. Donc il y a une interprétation des situations avec les mêmes phrases, dans la même situation, qui est radicalement différente. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de transformation et de changement de point de vue radical à construire chez les élèves. Et ce qui est intéressant aussi, enfin, de mon point de vue, j'espère du vôtre aussi, c'est que par exemple, les deux points derniers, alors la base locale de savoir, c'est chez Bernstein ce qu'on appelle l'expérience, les savoirs, l'hypercontextualisation. C'est-à-dire que les élèves ont tous dit, mais moi aussi je mange, je fais ce qu'il faut, je mange des savoirs, mais ma maman elle veut pas que... cette forme évidemment, c'est-à-dire on se sont référés, mais le texte le demandait aussi hein, initialement, se sont référés à leur pratique ordinaire d'alimentation pour répondre. Et là où ça me paraît encore plus important, c'est le dernier point, c'est le fait que quand on leur posait des questions quand même sur les savoirs, on avait attiré leur attention sur l'autre, hein, sur, si vous vous souvenez, le triangle et les petits textes de savoir, on avait même lu avec ma collègue ensemble les contenus. Et bien, quand on leur demandait de répondre à ce qu'il fallait plutôt manger, etc., en dehors du fait qu'évidemment ils disent systématiquement qu'il faut manger 5 légumes et 5 fruits par jour, mais on leur fait remarquer que c'est pas dans le texte, mais dans l'expérience médiatique, effectivement, mais ils peuvent dire aussi des choses comme « je ne sais pas ». Et ça, c'est intéressant parce qu'ils n'imaginent pas que la réponse aux questions peut être dans les textes. La réponse aux questions, elle est dans leur expérience, donc on ne sait ou on ne sait pas. Donc là, il y a un problème. Ça va, ça peut... Alors évidemment, mais ceux-là, ils nous intéressent moins, donc c'est pas la peine. Voilà, on n'est pas là pour eux. Et eux, en plus, ils n'ont peut-être même pas besoin de l'école. Donc, voilà, peu importe. Alors, on pourrait dire ça aussi. Alors, je vous donne le temps de lire qui est la théorie de ce que je suis en train de dire. Hein. Ça, ce que là, il se trouve effectivement que j'avais besoin. J'aime bien faire référence à Bernstein parce que c'est un sociologue du langage et des classes sociales qui a le mieux théorisé cette question. Alors vous voyez, on n'est pas du tout sur des questions d'handicap socioculturel ou des questions déficitaires, mais bien des questions du rapport au monde. C'est-à-dire que ce qui fait sens pour certains élèves, selon l'expression qu'utilisent les enseignants, c'est bien ou les significations spécifiques et particulières ou les significations génériques universalistes pour les autres. L'école fonctionne sur les significations génériques universalistes parce que les savoirs sont construits dans ces significations. Dernière partie. Alors j'ai dit que paradoxalement, Donc je reprends ma phrase. Les évolutions, donc simultanément, les évolutions contemporaines, simultanément. Donc on peut enlever éventuellement, si vous voulez ces diapos, je vous les donne. Enfin, sans
pas dans l'espace partagé.
Voilà. Donc vous enlevez, vous pouvez éteindre le. Effectivement. Et donc simultanément, les situations mises en place par les enseignants donc accordent plus de place au langage qu'il y a 30 ans, même peut-être 20 ans, comme je le disais, mais produisent des situations ambiguës. C'est-à-dire qu'en effet, l'école, on pourrait dire, en obéissant aux préconisations institutionnelles aussi, qui disent qu'il faut apprendre aux élèves à communiquer, à s'exprimer. Et également, et c'est très légitime compte tenu des sociétés contemporaines dans lesquelles les gens doivent prendre la parole, tout le temps et toujours. Simplement, à la télévision, on leur demande de prendre la parole pour témoigner. Aujourd'hui, sans doute que c'est pas la même chose du tout que prendre la parole pour apprendre. Également, on pourrait dire que dans les objectifs didactiques, les modalités didactiques qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans les classes, par exemple, dès lors que les élèves doivent construire les savoirs, vous savez tout comme moi qu'une très grande première partie de la classe est consacrée à donner la parole aux élèves pour construire, faire sortir les représentations. Vous voyez ce que je dis ? Et ça se passe toujours, enfin les trois quarts du temps, et en particulier dans les établissements qui nous intéressent, avec une langue quotidienne. Ce qui est quand même un problème, parce que la langue quotidienne évacue assez aisément, en tout cas du point de vue des élèves, mais également du point de vue des enseignants qui s'adaptent aux élèves, très peu des mots du savoir, très peu du genre textuel ou discursif, ça s'appelle comme ça, de mobilisation ou de construction des savoirs. Donc, si on se pose la question du vocabulaire, si on se pose la question de la restitution, parce que l'école est toujours aussi exigeante, c'est-à-dire elle exige toujours qu'à l'écrit, il y ait des textes de savoir. Et que, effectivement, les textes de savoir correspondent au savoir disciplinaire quand même aussi. Sauf que, il y a très peu aujourd'hui d'exemples, pour ne pas dire de modèles, d'exemples qui permettraient de construire des ressources pour les élèves de ZEP, pour aller vite, d'éducation prioritaire, dans les classes. Dans les manuels, il n'y en a pratiquement plus. Et que le petit texte que l'enseignant fait copier, ou de plus en plus, quand je regarde les cahiers, par exemple les cahiers de sixième, en ce moment je regarde des centaines de cahiers de sixième pour voir si justement les élèves sont confrontés aux mêmes univers de savoir, quels que soient les contextes d'enseignement. Ça n'est pas exact, ils ne sont pas confrontés, semble-t-il. Enfin, ils n'ont pas les mêmes cahiers du tout, en tout cas. Alors, en particulier en français. En SVT, c'est assez normé. Donc, si je reprends, si vous voulez, le petit texte est de plus en plus une photocopie découpée, collée. Au motif que ça mettrait très longtemps, si les élèves avaient à copier, puisqu'ils sont mal à l'aise avec la copie, et alors plus encore avec l'écriture. Donc plus les élèves sont en difficulté et plus ils n'ont que l'école pour construire les ressources, moins l'école leur apporte ses ressources. Donc là, on a un vrai problème à l'heure actuelle. Peut-être que ça explique que les écarts se creusent autant. Et donc les situations de la langue pour apprendre pourraient être, par exemple, de construire des échanges cognitifs, c'est-à-dire d'élaboration, non pas de faire sortir les représentations de ce qu'ils pensent des choses, non pas comme en haut à droite de la double page de manuel de savoir ce qu'ils ont et ce qu'ils mangent au petit déjeuner, etc. Mais bien davantage, de les aider à questionner le monde, parce que la plus profonde des différences entre les élèves de milieu populaire et les autres, c'est que les uns sont construits dans leur mode de socialisation à interroger le monde et non pas à y agir seulement. Pour les autres, au contraire, on pourrait dire la valeur, c'est agir dans le monde. C'est deux choses complètement différentes. Si on utilise le langage à l'école pour apprendre, c'est entre autres en passant par des situations où on s'interroge sur les processus, les phénomènes, les mises en relation des choses. Hein ? Et à ce moment-là, le lexique change. Parce que si on s'interroge, de temps en temps, en effet, il manque des mots, mais pas forcément les mots que les enseignants ont l'habitude d'expliquer. Et ça, si je prends un exemple tout à fait facile, souvent, les mots comme mammifère, canidé, si je prends autour du chien, je vais le dire facilement, on pourrait passer de médor, le spécifique, à mammifère, le générique, le plus englobant. Par exemple, ce travail-là de catégorisation, de classement, qui correspond à des modalités d'appréhension des objets du monde radicalement différentes selon qu'on est sur médor ou sur mammifère. D'habituer les élèves, non seulement à avoir... Alors, c'est pas une question d'un vocabulaire technique, c'est que dans mammifère, on ne dit pas le même monde. C'est pas que c'est un mot savant, c'est que c'est un mot qui renvoie à une opération cognitive. C'est un mot des savoirs. Alors, ça serait complètement ridicule de dire que, ici, nous sommes dans une salle pleine de mammifères. C'est pourtant le vrai. Mais, effectivement, d'opposer la description d'un moment spécifique, que j'espère, au demeurant de savoir, mais au demeurant convivial, mais néanmoins, on ne va pas parler, on est ensemble. Alors, on va peut-être se désigner. Alors, c'est difficile si on avait à se désigner là, hein. On est quoi? Alors, travailler ainsi, en se disant, on est quoi? Des formateurs? Non, t'es pas des formateurs. Je ne sais pas. En l'occurrence. Voilà. Mais, par exemple, travailler la dénomination. On s'apercevrait vite que mammifère, ça ne convient pas. Mais ça ne convient pas, encore une fois, non pas parce que c'est savant, technique et ridicule, mais parce que ce n'est pas ça dont on a besoin dans la situation qui permet de dénommer. Oui. Voilà. Et donc, c'est la même chose. Si on, de temps en temps des élèves ont chien, je vais à l'opposé, et pas médor, ou pas canidé, mammifère. Mais ils peuvent utiliser chien à la place de médor. Sans que chien désigne l'opération qui englobe l'ensemble des médors. Oui, ça va ce que je suis en train de dire. C'est ce travail-là qu'il est nécessaire sans doute de faire à l'école sur le lexique. Et pas d'expliquer, comme j'ai l'habitude de le dire, au dodendron qui n'a pas d'intérêt. Au demeurant aussi, il serait très intéressant de travailler le vocabulaire de la vie quotidienne que nombre des élèves, effectivement, a l'impression de connaître, que les enseignants aussi n'imaginent pas que les élèves ne connaissent pas, alors que le sens qu'ils mettent n'est pas le même, mais c'est pas l'objet ici. Hein, donc, travailler vocabulaire générique, vocabulaire spécifique, permet de travailler contextualisation, décontextualisation. Également, ce qui est sans doute fondamental, c'est de travailler tout ce qui est implicite dans le discours. Surtout à l'oral. Or, la classe, je l'ai dit tout à l'heure, est envahie par l'oral. Et un oral quotidien. Tout ce qui est inférence, tout ce qui est implicite et intentionnalité, c'est-à-dire de comprendre, en effet, que, par exemple, derrière ce, si on reprend la double page que je vous ai montrée tout à l'heure, de comprendre quand même, pour les élèves, que derrière même l'éducation A, se pose la question des savoirs. Derrière le fait qu'il faut manger équilibré, c'est pas une injonction. C'est effectivement une introduction à des savoirs. Donc, travailler le langage pour faire émerger ce qui n'est pas objet d'enseignement. Hein, dans cette partie-là de l'exposé, j'ai l'habitude de dire que on pourrait situer Bourdieu sur l'école, effectivement, exige ce qu'elle n'enseigne pas. C'est exactement cela. L'école oublie que si les élèves sont dans le langage pour communiquer l'expérience, pour dire son opinion, etc., elle n'est pas du tout dans ses approches du langage et de la langue de faire verbaliser et donc de construire des ressources. Parce que c'est ce que justement il n'est pas verbalisé ordinairement dans l'oral de la classe qui va être utile pour écrire les savoirs et pour apprendre. Si on n'a pas des ressources, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, si on n'a pas de ressources à sa disposition, et selon l'expression consacrée, pour une partie des élèves qui nous intéressent, il n'y a que l'école qui va construire ses ressources, eh bien les élèves ne pourront pas écrire. Alors il y a bien les deux choses, ne pourront pas écrire, ne pourront pas apprendre. Il y a bien les deux choses, à la fois construire chez eux l'idée que c'est dans les textes qu'il y a des savoirs. L'idée que c'est avec le langage qu'on construit les savoirs, et l'idée de construire les ressources du dans le langage qui soient à la fois lexicales, effectivement, et de genre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'écrire en géographie, qu'est-ce que c'est qu'écrire en français, et mettre cet accent sur les processus, les phénomènes, les mises en relation, que j'évoquais précédemment. Là où certains élèves, au contraire, s'intéressent aux faits, s'intéressent aux résultats, et isolent les objets les uns des autres. Alors, ce que souvent les enseignants appellent « ne pas transférer », vous savez que, soi-disant, il y aurait des compétences transférables. Non, sans doute que non. Sans doute qu'il vaut mieux même partir du principe que non, même s'il y en a peut-être quelques-unes. Mais c'est peut-être plus productif de se dire non, il n'y a pas de choses qui se transfèrent, puisque sinon on laisse les élèves tout seuls, non seulement pour transformer l'expérience en savoir, mais bien pire, pour faire les différences entre les disciplines, dans qu'est-ce que c'est qu'expliquer, qu'est-ce que c'est qu'argumenter, ce n'est pas la même chose, vous le savez aussi bien que moi. Donc je dis ça extrêmement vite, compte tenu du temps qui passe, mais on peut y revenir si vous voulez. Comme on le dit à plusieurs reprises depuis quelque temps aussi, ça vaudrait la peine, dans certains cas, que les enseignants soient plus attentifs pour expliciter les mots des procédures. Hein, j'ai commencé par dire, regardez, il y a le mot chercher. Mais les mots comme chercher, observer, expliquer. C'est ça que j'appelle les mots de la classe, les mots, vous savez, ceux qui sont constamment utilisés, encore que le verbe faire soit 10 fois plus utilisé que cela, mais que le verbe faire ne désigne en rien, il ne peut entraîner, effectivement, l'apprentissage. Alors, comme on le disait l'autre jour dans une autre réunion, et encore l'autre jour dans une autre réunion encore, effectivement, si on pouvait éviter que le verbe faire soit utilisé avec les publics qui nous intéressent, ça serait formidable. Alors, on peut s'arrêter là, mais se dire qu'effectivement, les adaptations, conclusion, ou les modes d'appréhension du langage et de la langue en éducation prioritaire ne correspondent peut-être pas du tout à ce qu'on pourrait faire, ce qu'il faudrait faire si on s'intéresse à la réduction des inégalités et à aider les élèves à bénéficier néanmoins de leur passage à l'école. Et c'est peut-être terminé un peu rudement. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser de cette fin mobilisatrice pour le débat.